Chapitre 39. Laura se trouvait dans la chambre d'amis d'Irène. Le lit à une place avait été fait avec soin, et on avait posé dessus une serviette jaune poussin pliée en quatre. Le reste du mobilier était constitué d'une armoire, d'une bibliothèque et d'une table de chevet, sur laquelle Laura avait installé la photo mutilée de ses parents et elle. Elle l'observa quelques instants avant de la retourner face au mur. Au rez-de-chaussée, elle entendait les éclats de rire enfantins d'Irène. Celle-ci écoutait une émission de radio où les gens devaient parler le plus longtemps possible sans s'arrêter et sans se répéter. Laura avait du mal à voir l'intérêt, mais Irène adorait ce programme et Laura s'amusait beaucoup à l'entendre glousser comme une enfant. Une fois que Laura eut terminé de défaire ses bagages, elle ne possédait pas grand-chose mais n'avait qu'une main pour déballer ses affaires, elle s'assit sur le lit et s'adossa au mur. Tout en triturant le bord de son plâtre qui commençait à s'effilocher, elle écouta les gens se mouvoir dans la maison voisine, le bourdonnement de leurs voix. La maison d'Angela était en vente depuis peu et recevait un flot continu de visiteurs, même si personne n'avait encore fait d'offre. Du moins, c'était ce que l'agent immobilier lui avait dit. « Des badauds !» s'était-il plaint lorsqu'elle l'avait croisé dans l'allée, en train de tirer furieusement sur sa cigarette. « Tout ce qu'ils veulent, c'est de quoi remplir leur foutu podcast d'affaires criminelles. » Quelques-uns avaient frappé à la porte d'Irène, mais Laura les avait chassés. De vrais journalistes aussi étaient passés, mais Irène ne voulait parler à personne. Elle avait déjà parlé à la police. Mais elle avait aussi écouté et enregistré. Laura se sentait si fière d'elle. Jamais de sa vie, elle n'avait éprouvé un tel sentiment, même pour quelqu'un de sa propre famille. Elle avait d'ailleurs commencé à l'appeler Miss Marple, mais avait vite arrêté lorsqu'elle avait constaté que ce surnom avait le don d'agacer profondément Irène. Irène. Quand elle n'écoutait pas ses émissions à la radio, qu'elle n'était pas plongée dans un livre et qu'elle n'aidait pas Laura dans ses démarches judiciaires, sa demande d'indemnisation pour préjudice corporel, son audience à venir et tout le reste, elle parlait voyage. Elle voulait absolument aller avec elle à Positano, la ville où avait été tourné le film sur Hannibal Lecter. Ou quelque chose dans le genre. Laura lui avait expliqué qu'elle n'avait pas les moyens de partir en vacances, en tout cas pas tant qu'elle n'avait pas touché ses indemnités. Mais Irène avait répondu que ce n'était pas un problème. « Avec William, on avait des économies », avait-elle déclaré. Laura avait protesté, évidemment, mais Irène ne voulait rien savoir. « Je ne vais tout de même pas emporter mon argent dans la tombe !» Après cette discussion, Laura s'était sentie prise de vertige. Un manque de sucre, peut-être. À moins que ce ne fût simplement parce que ses perspectives d'avenir, jusque-là bouchées, s'ouvraient enfin en grand. Pour l'heure, il n'était pas question d'un départ. Laura se remettait toujours d'un traumatisme crânien et d'une côte brisée, sans parler de la main que la grosse fille au piercing avait écrabouillée sous sa chaussure pointure 42. « Il y a 27 os dans la main », lui avait expliqué le médecin en lui montrant sur l'écran l'étendue des dégâts. « Et vous en avez 15 de cassés. Vous avez beaucoup de chance. »«
Vous appelez ça de la chance, vous ?»
l'avait coupé Laura. Le médecin l'avait gratifié d'un sourire indulgent. « Vous avez de la chance que les fractures soient bien nettes. Quelques séances de rééducation et vous devriez recouvrer toute votre mobilité. » Des séances de rééducation, comme au bon vieux temps. « J'ai l'impression qu'on est de retour à la case départ », avait dit sa mère. Elle sanglotait à son chevet depuis à peine quelques minutes, mais Laura avait l'impression que ça faisait des heures. « Toi, grièvement blessée, dans une chambre d'hôpital. Je n'arrive pas à le croire. Au moins cette fois, c'est pas parce que ton plan cul m'a renversée avant de prendre la fuite, pas vrai ?» Sa mère ne s'était pas éternisée. Son père non plus, d'ailleurs, parce qu'il était garé en double fil et que Didre l'attendait dans la voiture. Qui sait, peut-être qu'elle va se faire embarquer à la fourrière, avait-il plaisanté avant de regarder nerveusement par-dessus son épaule, comme pour vérifier qu'elle ne l'avait pas entendu. Il avait ensuite pris la main indemne de Laura et l'avait serrée, avant de déposer un baiser sur son front en lui promettant de revenir bientôt. Au moment de sortir, il s'était retourné et lui avait dit « Peut-être que quand tu iras mieux, on pourrait passer plus de temps tous les deux. On pourrait même emménager ensemble, qu'est-ce que tu en dis, mon poussin ?» Laura avait secoué la tête. « Papa, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Didre et moi, on est incompatibles. »
« Oh, je le sais, ça.
Je sais bien que tu ne pourrais pas revivre sous le même toit qu'elle, mais je pensais à plus long terme, tu vois, quand je l'aurais quittée. Laura lui avait adressé un sourire réconfortant. Elle ne se faisait pas d'illusions. Crâne d'œuf aussi était passé la voir. Inspecteur Barker, il s'appelait. Elle avait fini par l'imprimer dans son cerveau, même si, dans son cœur, il resterait pour toujours crâne d'œuf. Il était sincèrement désolé pour l'agression dont elle avait été victime, et il lui avait aussi appris que Myriam avait retiré sa plainte. Elle a reconnu qu'elle avait votre clé. Nous l'avons réinterrogée et avons découvert de nombreuses contradictions dans ses déclarations.
La surprise du siècle,
s'était exclamée Laura avec un grand sourire. Crâne d'œuf avait haussé les sourcils. Apparemment, elle a voulu vous aider alors qu'elle vous pensait coupable, tout en essayant d'incriminer Carla Meyerson, qu'elle pensait innocente, mais qui était en fait coupable.
Un truc pareil, ça s'invente pas,
s'était esclaffée Laura. Crâne d'œuf avait souri. Par contre, il va falloir qu'on se revoie, avait-il dit avant de sortir. Il y a toujours cette histoire de sac volé dans lequel se trouvaient le couteau et les bijoux.
Et n'oubliez pas l'épisode avec la fourchette.
Oui, bien sûr. L'épisode avec la fourchette. C'était la nuit. Laura était allongée dans son lit à une place, bien enveloppée dans la couverture, sa main valide appuyée contre le mur mitoyen de l'ancienne chambre de Daniel. Il y avait quelque chose d'étrangement circulaire dans cette histoire. Tout avait commencé avec elle dans le lit de Daniel, et tout se terminait avec elle séparée de sa chambre par quelques centimètres de briques victoriennes. Elle repensait souvent à la nuit qu'elle avait passée sur sa péniche et au petit matin suivant. Or, ce n'était pas le souvenir de Daniel qui la tracassait, ni son changement d'attitude inexpliqué, son passage soudain de la gentillesse à la cruauté, ni l'expression sur son visage lorsqu'elle avait bondi sur lui. Non, la chose à laquelle elle n'arrêtait pas de repenser, c'était le moment où elle était descendue de la péniche, le moment où elle avait quitté la passerelle pour poser le pied sur la terre ferme et où elle avait levé la tête vers la droite. À cet instant, dans la lueur grise de l'aube, elle avait vu une femme sur le pont qui la regardait. Et ce qui perturbait le plus Laura, c'est qu'elle était absolument incapable de se rappeler l'expression sur le visage de cette femme. Elle n'aurait pas su dire si elle avait l'air triste ou en colère, brisée ou déterminée.